bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Merci Laetitia, retour de l'info à midi, à tout à l'heure. Soyez les bienvenus avec Léa Canopédelli, Daniel Morin, Albert Algo, Alexis Le Rossignol, Frédéric Siris. Tout à l'heure, Tanguy Bassureau et nos invités Alice Dufour et Guillaume Tonguedec. Bonjour et merci. Merci de venir à ce micro, Alice. Alors Alice, c'est la première fois, vous Guillaume, vous êtes un habitué puisque l'émission a été construite autour de vous.
Ouais. Voilà, c'est ça, je suis très très content de revenir.
On vous doit cette émission.
J'ai acheté la maison de la radio, d'ailleurs ils ne sont pas encore au courant, mais...
7 ans de réflexion, on a envie de dire ce film qui devient une pièce de théâtre. Non, à la base c'était d'abord une pièce de théâtre avant d'être un film, c'est ça?
C'est d'abord une pièce de théâtre de George Axelrod, une pièce américaine absolument... pleine de charme. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que Stéphane Hillel a voulu la monter.
C'est c'est un humour un peu anglais, on a l'impression par moments aussi, plus que américain, non? Il y a un petit côté, il y a beaucoup d'ironie,
oui,
et un peu de machisme.
L'époque.
Oh,
c'est plus l'époque que l'Angleterre.
oui, il y a beaucoup d'ironie. Bah, il y a beaucoup de moquerie, ouais.
C'est l'histoire. Juste
en même temps, c'est un très beau portrait de femme libre. Je trouve le personnage que joue Alice, c'est quand même une femme qui décide en tout cas dans ces années, en 1950, de mener sa vie, de choisir ses amours dans une époque où le divorce est vraiment difficile, une Amérique puritaine. Et je trouve que c'est un portrait de femme qui peut résonner aujourd'hui très fort. Enfin, qui résonne aujourd'hui très fort à mon avis. Quoi.
Acheter de l'homme est mise en lumière quand même.
Oui, bien sûr, l'homme n'est pas parfait.
Ouais.
Là, non. Mais c'est un rôle de composition, Guillaume, c'est pour ça que.
Non, j'avoue mes imperfections aujourd'hui en direct sur France Inter.
C'est ça.
Non, bien sûr, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que c'est très humain, la pièce est très humaine.
Il y a à vos côtés Agathe Drone, Jacques Fontanelle, François Burlou et Clément Coche. On va en parler de cette pièce mise en scène par Stéphane Hillel. Ça se passe au Bouffe parisien et c'est extrêmement drôle. Et puis, c'est du spectacle, c'est-à-dire qu'il y a vous en donnez aussi pour les yeux, au-delà de la forme, il y a des projections, il y a des voix off, il y a des mises en scène, il y a des tenues vestimentaires totalement dingues.
Il y a un hommage à Jacques Chirac, avec le pantalon très
le fort. C'est vrai.
C'est vrai, t'as raison.
Il y a un mélange de réalité, de fantasme, de rêverie.
Et Alice Dufour qui joue plusieurs femmes.
Ouais.
Il y a différentes étapes et on ne sait pas d'ailleurs si on est dans un rêve ou dans la réalité en fonction de la situation. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord des interrogations et des questions vous concernant. On va commencer par Alice Dufour. Qui a conseillé à Alice de passer le casting du Crazy Horse puisqu'elle y a ses
sa mère.
Exactement. Sa mère.
Exactement.
Mais ça, c'est un truc. Alors, ça peut, j'allais dire, je suis peut-être vieux jeu en me disant, mais comment une maman peut conseiller sa fille ou dire à sa fille, va donc te mettre nu devant 500 personnes.
C'est pas
que pareil, hein.
Le Crazy Horse, c'est pas que la nudité, c'est quand même.
Alice, c'est pas un raccourci, ça s'appelle la vérité, la sincérité.
Non, c'est la vérité, c'est
si
sûr.
Si je vais au Crazy Horse et qu'elles ont des doudounes pendant 2h30, je vais dire à côté, vous êtes foutu.
Ils demandent d'être remboursés, vous allez être déçus. Non, mais au-delà de la nudité, il y a un enjeu artistique fort, quand même.
Oui, ça c'est pas un enjeu, c'est un prétexte. Non, c'est pas un enjeu, c'est un prétexte.
Ouais, pas parler d'artistique avec Nagui.
Il est puritain. Il est très puritain.
Okay, donc vous êtes que
l'enjeu
des hypocrites.
Est artistique.
Faut pas dire la vérité.
J'y suis allé, c'est artistique.
Mais non, mais je n'ai pas dit que c'était.
Moi,
pas
ma
artistique.
Mère, Madame Claude, m'avait conseillé aussi.
Non, le fait est que quand j'étais, je devais avoir 15-16 ans et il y avait une émission sur Arte qui suivait le parcours de quelques danseuses du Crazy Horse. Et avec ma maman, on suivait cette émission qui a duré à peu près un mois et on était complètement fascinés par ce lieu. À l'époque, il y avait encore beaucoup de mystères autour de ce lieu-là. On n'entrait pas dans les loges du Crazy Horse comme ça. Les caméras n'y entraient jamais, tout ça. Donc,
on va même aller plus loin. On ne savait pas qui étaient les danseuses du Crazy Horse, puisqu'elles avaient toutes la même perruque ou presque.
La même tête,
des surnoms.
Ça, c'est toujours le cas.
Oui, j'entends. Mais en tout cas, aucune, à part Love Amour et Bernardin qui avait communiqué autour, mais on ne savait pas qui elles étaient.
Albert, t'as dansé combien de temps pour le Crazy Horse?
Moi, je dansais sous le nom de Pamela Boum Boum.
Non mais le Crazy Horse évolue avec son époque et c'est très bien et voilà. Sauf que voilà, et donc quand on est passé...
Et vous appelez comment Alice Dufour?
Jade Or.
Jade Or.
Jade.
Et vous en servez encore de ce petit nom?
Comment?
Je vous en servais encore de ce petit
Oui, sur Internet, ouais.
On m'appelle Jade, en fait. Enfin, toutes les personnes que je côtoie de l'époque du Crazy Horse m'appellent Jade. Oui, absolument.
Double personnalité.
Ouais. Ah oui, oui, oui.
C'est génial.
Et donc, oui, tout ça, bon, l'histoire, c'est qu'en fait, voilà, avec maman, on avait suivi cette émission. Et donc, quand on est passé devant le Crazy Horse, j'avais 21 ans, et, oh, bah, tu sais, c'est le Crazy Horse. Et si, bah, vas-y, bah, demande s'il y a des auditions. Je me maman, quand même.
Vas-y, toi.
Maman, quand même. Parce que vous étiez choquée à l'idée d'aller au Crazy Horse, ou vous pensiez ne pas être prise?
Non, j'étais étonnée qu'elle
vous encourage à le faire.
M'encourage à le faire, mais après, voilà, c'est en 5 secondes, c'était terminé. Après, j'ai poussé les portes du Crazy, j'ai demandé s'il y avait des auditions. Bon, ça a pris un an entre le moment où j'ai poussé la porte du Crazy Horse et mes premiers pas sur scène. J'ai passé 4 castings, etc. Ouais.
Et la pudeur dans tout ça? À quel moment on se dit je fais, j'accepte pas?
Pour la faire courte, en fait, donc je passe le casting en janvier 2008, ma première est en décembre 2008. Entre temps, il n'y a personne qui ne sait que je suis, personne de ma famille à part ma mère et mon petit ami de l'époque. Parce qu'en fait, je voulais attendre d'avoir dansé en public au Crazy Horse
pour
savoir si je voulais continuer ou pas.
D'accord.
Enfin, si jamais ça me plaisait pas, de pouvoir partir sans que personne l'ait su.
D'accord.
Et en même temps.
Il y a eu un moment, le premier jour, on se fait violence au-delà du trac du spectacle.
Non, on se fait. Oh, je me suis pas fait violence à aucun moment. Je voulais juste être certaine.
D'accord.
Si jamais je quittais le lieu, qu'on me dise pas, mais quand même, le Crazy Horse c'est génial. Pourquoi t'es passé à côté de ça? Voilà.
D'accord. Guillaume de Tonguédec, que lui a dit Michel Bouquet, son professeur, à propos du métier de comédien? Il a dit, les gens ont payé pour te voir. Quoi?
Souffrir?
Pas souffrir. Mais c'est un peu l'idée.
Ah bah non, pas, c'est l'idée là. Non.
C'est un peu l'idée.
Nu, te mettre à nu.
Te mettre à nu.
Non, non, c'est on s'attend pas même à.
Dans la bouche de Bouquet.
Pour
en chier.
Exactement.
Voilà. Ah ouais.
Exactement. Alexis n'était pas loin. Pour en chier. Qu'est-ce qu'il sous-entendait Michel Bouquet en disant ça d'ailleurs?
Oui, t'en pourrais.
Ça veut dire quoi pour lui? C'est-à-dire, c'est se fatiguer, c'est se démener, c'est se battre avec les éléments?
Il dit plusieurs choses en fait là-dedans, parce que ça c'est la phrase choc, mais il développe beaucoup de choses. D'abord l'idée que le théâtre c'est cher pour le public, donc
ce qui est toujours vrai.
Et c'est toujours vrai. Et il dit le public, et moi le premier quand j'y vais, on en veut pour notre argent si on a payé cher notre place. Et moi j'ai jamais oublié ça. Je pense que l'acteur qui ou l'actrice qui monte en scène, on a une responsabilité vis-à vis du public qui s'est déplacé et qui a payé ses places, etc. Et je pense qu'il faut du coup, oui, vraiment leur donner pour leur argent dans le bon sens du terme, c'est-à-dire essayer de se surpasser tous les soirs. Et c'est pas parce que c'était bien un soir, le lendemain c'est pas le même public. Donc il faut vraiment payer de sa personne. Je pense qu'il a raison.
Et il
pense aussi que la responsabilité de l'acteur, c'est de tendre un miroir à ses contemporains, soi-disant en jouant une pièce comme Cette réflexion. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes dans la salle, et pour autant, on parle évidemment de vous et on vous tend un miroir en vous disant regardez à quoi vous ressemblez. Et il dit c'est ça que les gens veulent voir, c'est leur propre souffrance, leur propre joie, leur propre détresse, leur propre rire montré sur scène. Voilà, c'est ça. On tend un miroir à nos contemporains.
En tout cas, ça fonctionne parce que Cette réflexion, la première chose que l'on fait en sortant du théâtre, on allait prendre un verre, c'est ce qu'on a fait. Hier soir, c'est de discuter, c'est de débattre, c'est de débattre sur la fidélité, c'est de débattre sur et toi, t'aurais fait quoi si t'avais été lui? Est-ce que c'est normal, pas normal? Et de resituer par rapport à l'époque aussi, et de rendre contemporain le propos. C'est exactement là ce qui
est le propos est universel. Ouais, non, c'est la fidélité. Est-ce qu'il faut être fidèle? Et la tentation, ce qui est très joli dans l'écriture, c'est que c'est un homme fidèle. Ce serait un coureur, il s'enverrait en l'air tous les étés, ça n'aurait pas d'intérêt. Et elle, la jeune fille, elle a une certaine noblesse. Elle choisit ses amours, c'est une femme jeune de 25 ans, elle commence dans sa vie, elle a une autre un autre regard sur la vie que cet homme-là qui a déjà lui plutôt la quarantaine passée, et c'est le choc de ces deux personnes-là, et ils vont s'en trouver modifiés à la fin. C'est pas que l'histoire d'une nuit, c'est beaucoup plus profond que ça.
Il faut qu'ils soient tous les deux,
c'est pour ça qu'on l'aime bien, quoi.
Il faut qu'ils soient tiraillés aussi, sinon il y a pas d'enjeu.
Ah, il faut qu'ils soient tiraillés. Le personnage, il est pris comme une mouche dans une toile d'araignée. On le voit se débattre entre ses envies hyper fortes, ses angoisses hyper fortes aussi, et c'est dit mais qu'est-ce que je fais? Il se raconte des histoires tout seul, c'est très très drôle à regarder.
Et il a même sa volonté, son Jimmy Cricket qui vient lui parler, lui donner des conseils. Pour en revenir à Michel Bouquet, quand vous dites il faut tout donner, se dépasser, le don de soi sur scène, mouiller la chemise, faut y aller. Comment faire ça et ne pas en faire trop, et justement et ne pas passer de l'autre côté de la ligne et ne pas être cabot sur scène.
Ouais, c'est une super question. Ouais, je crois que c'est l'envie d'être juste, la nécessité d'être juste. Il faut d'abord, enfin, à chaque fois que moi je travaille, je pense qu'Alice c'est pareil. On essaie d'abord et avant tout d'être juste. Et une fois qu'on est juste, on peut aller vers la démesure. On se dit, mais ça devient complètement dingue. On peut aller très très loin une fois que la base est juste.
Il faut s'accrocher. Un des acteurs
c'est Michel Serrault, qui était toujours juste et qui a pu faire des choses complètement dingues et apporter une démesure. Voilà, c'est un exemple pour moi. C'est ça, c'est pas partir de la justesse.
Il faut s'accrocher à la situation, en fait. Ouais. Voilà, si on s'accroche à la situation, qu'est-ce qui se passe pour Guillaume avec Richard, pour moi avec la jeune femme, qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? Si on s'accroche à ça, on peut que être dans la vérité, je pense.
En restant sincère avec le personnage que l'on incarne.
Il faut parce qu'encore une fois, le public, on lui fait pas prendre des vessies pour des lanternes. Et je pense que à chaque fois que je dis ça, je pense que l'acteur qui réussit son rôle, il réussit à ouvrir une petite porte chez le spectateur et à rentrer en lui et à lui dire des choses de façon très très intime. Je pense que le public qui a été vraiment touché, il aura du mal à définir ce qui lui est arrivé si le spectacle est réussi. Je pense que c'est ça qu'on doit faire, mais si on en fait trop, si on est faux, le public immédiatement referme la porte et se dit non, c'est pas pour moi. Il se retrouve dans son fauteuil de théâtre, il réatterrit quoi, et le choc est assez dur. Faut vraiment essayer de le faire rêver pendant une heure et demie.
Qu'est-ce qu'Alice a tatoué sur son poignet?
Elle a Alice des chiffres. Dufour. Elle a des chiffres romains, je crois.
Son numéro de téléphone.
Son code de carte bleue.
Non.
Son numéro de sécu.
Je crois qu'il y a 13, il y a.
Moi j'ai vu une encre, mais je sais pas.
Son code Wi-Fi.
C'est plus long, le code Wi-Fi.
Mais c'est utile.
Une date de naissance, une année de naissance.
De son père, de son.
Non, mais Alexis, comme t'étais vraiment chaque fois pas loin. La date de naissance, vous avez votre date de naissance tatouée sur le poignet.
Alors j'ai ma date de naissance.
Vous avez peur de l'oublier?
Non, 22 février, en fait, c'est la. J'ai le même tatouage que Suzanne Meyer, qui est née le même jour. On est très amies. On s'est tatoué, notre date de naissance sur le poignet.
Vous êtes sœur de naissance.
Proche, voilà. Et, on aimait ça. On voulait que ce soit hyper archaïque comme ça.
C'est un clin d'œil aussi à la date anniversaire d'Hitler, qui est née le 22.
Qui est fou. Alice, ne répondez pas à ça. Ne répondez pas à ça.
C'est un clin d'œil.
Non, mais le 2 m'importe beaucoup. Voilà.
Pour contrer l'image. Paraît-il trop lisse que peut avoir Guillaume de Tonquédec, de jeune homme de bonne famille, qu'avait-il acheté?
Un blouson en cuir.
Une hache.
Un coussin pété. Santiago.
Non.
Une moto.
Non.
Un cran d'arrêt.
Non. Un cran d'arrêt qui a dit ça. Ouais. Non, non, non.
Un t-shirt Nagui.
C'est le mec qui va loin. J'en ai marre d'être jeune homme de bonne famille, je vais acheter une hache.
Un perfecto.
Non. On est dans l'accessoire. Alice Dufour, merci de ne pas tricher dans cette émission.
On discute.
On discute. Discuter de la réponse quand il y a une question, ça s'appelle tricher dans un jeu.
Pas du tout.
Boots, Santiago.
Non.
Une casquette.
Non,
c'est. Est-ce que c'est un accessoire?
C'est un accessoire.
Que c'est vestimentaire.
Une batte de baseball.
Un peu rock, quoi.
Ah, une crête.
Une chaîne.
Mais on peut pas. Un bracelet de force.
Alors, c'est pas loin, mais on peut tellement pas imaginer Guillaume de Tonquédec avec ça.
Un blouson.
Non.
Là, j'ai dit 20 fois.
Ah, pardon.
Non, c'est plus. On est plus dans le domaine du.
Une moto.
Du petit accessoire. Non, petit accessoire.
Une petite moto.
Mais ça va avec les bikers.
De la bague.
Exactement.
Ah, une bague.
À tête de mort.
La bague tête de mort. Mais ça va pas, Guillaume.
Vous imaginez un peu les idées qui me sont passées par là.
Mais c'est vrai, vous aviez un vrai souci avec cette image de jeune homme bien rangé?
Ouais, moi je viens d'une famille de la petite bourgeoisie. Vous avez vu la tête que j'ai. Imaginez la tête que j'avais à 20 ans, quoi. C'est pas possible, quoi. Enfin, c'est ce qu'on appelle un miné, quoi. Et donc je me disais...
Est-ce qu'à 20 ans, vous aviez déjà une tête plus âgée que votre âge?
Non, j'ai toujours fait plus jeune que mon âge. C'est pour ça que je peux jouer encore des rôles d'hommes plus jeunes que je n'ai réellement. Enfin, ça va pas durer, mais...
Vous avez 70 ans?
Voilà.
Et il joue un mec
J'étais
de 40.
J'étais en cours avec Michel Bouquet.
Vous étiez prof de Michel Bouquet. Non, mais c'est-à-dire que vous avez trop entendu, quoi, de chez les directeurs de casting, les metteurs en scène, tu fais trop jeune, tu fais trop gentil.
C'était mon problème à moi. Je me disais, est-ce que je fais pas trop lisse, etc. Tous les copains dans les cours étaient habillés totalement en noir, ne buvaient pas que de l'eau, avaient des vrais soucis. Et je me disais, il faut que je ressemble à ça pour réussir un jour à intéresser quelqu'un et à jouer la comédie, quoi. Je me posais un vrai problème, quoi. C'est Isabelle Nanty qui m'a dit, mais essaye juste d'être toi-même. Et ça prend beaucoup de temps, quoi. Ça prend beaucoup de temps. Elle avait bien raison.
Une citation d'Anatole France qu'Alice Dufour aime bien se remémorer. L'artiste doit aimer la vie et nous montrer qu'elle est belle sans lui.
Sans lui quoi?
Sans lui.
Bah, sans l'artiste. Elle ne vaut pas la peine d'être vécue?
Non. L'artiste doit aimer la vie et nous montrer qu'elle est belle. Sans lui, sans l'artiste.
Elle n'est rien?
Non.
On se rend pas compte.
Elle est triste.
On voit pas la différence, on en douterait. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît
aussi,
là-dedans?
J'étais à côté.
Ouais, t'étais pas loin. Non,
j'étais pas loin,
ouais, Frédéric. Mais
t'avais, le clan des pas loin.
Prends un demi-point ou pas?
Voilà, je sais pas, l'art, c'est la seule chose qui sert à rien dans la vie. C'est vrai. Allez, c'est pas utile, l'art. C'est pas utile dans le sens matériel ou quoi. Et donc, voilà.
Non, mais ça nous sert humainement, juste... humainement ça peut l'être, ouais, c'est ça.
Oui, voilà, exactement. Humainement, ça peut l'être. C'est ça qui me plaît dans cette...
Vous avez toujours voulu être artiste parce que vous avez commencé votre vie plutôt dans le monde du sport que dans le monde artistique.
Oui, j'ai fait beaucoup de gymnastique rythmique. Non, je voulais être professeur d'art plastique et entraîneur de gymnastique rythmique. Oui, voilà. D'accord. Donc, comme mon oncle, Bruno Dufour-Coppolani, qui était professeur d'art plastique. Donc, ouais.
Ah, Bruno est votre oncle? une légende familiale.
Vous rigolez, mais en Normandie, il a ce...
Bien joué.
Il y a eu un petit flottement.
Ouais, et moi, je me suis dit, mince, c'est qui ce Bruno Dufour?
C'est pas sympa. Mais je ne suis pas sympa.
Il est fort, Maïa.
C'est bien vu, là.
Une légende familiale dit que les ancêtres de la famille Tonquédec ont été obligés de vendre le château familial pour une raison étonnante.
Les impôts.
Laquelle? Non.
Dette de jeu.
Ils ont été obligés de se séparer du château familial pour une
raison. Il avait été construit. Déjà, il n'était pas eux.
Alors,
il était en zone de la Révolution.
C'est une raison qui se rapproche de ce que fait maintenant Guillaume aujourd'hui.
La famille qui vivait vraiment dedans est rentrée.
Parce qu'il y avait quelqu'un dans la famille qui était louche.
Non.
Ça a été construit sur un cimetière indien.
Qui a voulu être artiste et qui s'est ruiné peut-être.
Non. Mais en tout cas, c'est le comportement d'un ancêtre qui.
Était guillotiné.
Non.
Ah, c'était un ancien un collabo?
Non. J'ai dit que ça avait un rapport avec ce qu'il faisait aujourd'hui. Quel rapport avec la.
Eh ben, c'est pour ça que j'étais dans.
Non, je peux pas dire. Parce que
pour acheter un théâtre.
Non.
Acheter un cirque?
Non.
Pour acheter un théâtre?
Non.
Pour de l'argent pour acheter autre chose? Non,
c'est pas. À cause des fréquentations d'un des membres de ma famille.
Ouais.
Il connaissait qui? Un grand auteur, un grand dramaturge.
C'était une fixation sur Hitler.
C'était un 22 février, oui. Tout s'est passé un 22 février aujourd'hui.
Fréquentation. Non, mais ils vont pas trouver.
Et il organisait des orgies?
Non, vous avez pas trouvé. Non, un de vos ancêtres aurait fauté avec une comédienne.
Ah!
C'est ça?
Oui, on dit ça. C'est moi qui dis ça. J'aime bien cette histoire.
C'est faux.
Ça se trouve, c'est complètement mytho.
C'est sans doute faux. J'espère que c'est faux. J'espère qu'il a jamais fait ça. Et il aurait fauté avec une comédienne et donc il aurait déshérité une partie de sa famille en vendant le château à d'autres gens. Mais je sais pas du tout. Je pense que c'est faux. C'est totalement faux. Mais ça m'amuse de penser ça.
Comédienne connue?
J'en sais rien, je sais même pas. Non, je sais pas.
Non, puisque c'est faux. Tu voudrais qu'il continue son mensonge,
je crois. Ah, c'est faux, autant que ça soit une comédienne connue.
C'est faux, à quelle époque? 19e.
7 ans de réflexion, donc, cette pièce que vous portez, Alice Dufour et Guillaume de Tonquédec, c'est au Bouffe parisien, jusqu'à la fin d'année, donc il faut se dépêcher d'y.
On n'ira pas plus loin, c'est décidé, c'est trop fatigant à jouer. On est épuisé.
Non, et surtout, vous avez chacun surtout des obligations qui vous mènent à d'autres projets et à tourner du Canard L'Orange,
oui,
qui a été récompensé au Molière l'année dernière et qui continuera sa tournée l'année prochaine.
Elle a été nommée au Molière. Elle ne l'a pas eu, mais ça vaut le Molière.
Franchement, autant que Nicolas Briançon qui l'a mise en scène et que François Vincentelli qui lui a reçu le Molière pour le Canard à l'Orange. Mais revenons à ces 7 ans de réflexion. Un homme marié avec enfant se retrouve seul, c'est-à-dire que sa femme et son fils s'en vont en vacances. Voilà, donc lui, il est seul à la maison en se disant « Mais pourquoi ma femme veut absolument m'appeler tous les soirs à 10h comme si j'allais la tromper, comme s'il fallait vérifier qu'il se passe quelque chose alors que je n'ai aucune raison ?»
À l'époque des téléphones fixes, Nagui, il faut préciser. C'est-à-dire qu'avec un téléphone dans la maison, on n'avait pas le portable. Hein, donc on ne pouvait pas être joint n'importe où, n'importe quand.
Donc prisonnier d'être à la maison à 22h pour pointer et être sûr qu'on est fidèle à sa femme. Et donc il se pose comme ça cette question en disant « Mais je n'ai jamais trompé ma femme en 7 ans, évidemment, droit comme un i, je n'ai jamais bougé une oreille. » Et arrive un incident, on va dire, dans l'immeuble. Laissons la surprise, parce qu'il y a un effet visuel et une mise en scène qui est assez sympathique.
Un vrai effet. Hein.
Ouais, un véritable effet.
On sursaute.
Qui fait que on...
J'adore ce moment, moi, évidemment.
Intervient dans votre vie.
On adore ce moment, les comédiens. Quand on sait que ça va arriver, d'entendre la réaction de la salle, c'est tellement jouissif.
Et arrive justement une bombe. C'est-à-dire que, comme Marilyn Monroe, dans une robe pailletée, il y a une espèce d'apparition, comme un fantasme. Là, on est totalement dans la tête de ce bonhomme qui se dit...
Elle n'arrive pas en pailleté. C'est après, c'est le fantasme du...
Non, elle arrive d'abord en pailleté.
La première
elle, est croisée dans l'escalier. Mais c'est un profil de voisine qu'on n'a jamais. On n'a jamais ces voisines.
C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il dit mais elles sont dans les films, ces filles-là, normalement.
Nagui,
c'est pas ta voisine, c'est ta femme.
C'est devenu ta femme.
Quand j'étais étudiant.
Ça t'est arrivé?
Quand j'étais étudiant, 7 ans de réflexion. Non, c'est pas ça, la voisine. Non, mais alors, c'est un truc. Mais c'est trop long. Bon,
Attendez.
Nagui qui dit c'est trop long.
T'imagines la longueur?
C'est vraiment très long.
Il n'a pas tort.
Ouais. Je vais aller très vite. Tu me provoques, je vais aller très vite. J'étais étudiant, j'étais en prépa. L'appartement à côté de chez moi, c'était une maman avec sa fille. La maman était photographe, la fille était mannequin. Et pratiquement un numéro sur trois d'un journal qui s'appelait Photo Magazine, il y avait des photos de nus faites par ma voisine avec sa fille en photo dedans et avec les copines qui passaient. Donc je peux te garantir que habitant au sixième étage d'un vieil immeuble haussmannien où l'ascenseur fait à peu près 50 centimètres carrés, c'est-à-dire que voilà.
Tu passes la journée dans l'ascenseur
quand
pour
tu
la
rentres,
croiser.
Quand tu rentres, non mais même quand tu arrivais.
Je croyais qu'il était liftier, maman, il bougeait pas.
Ouais, je vivais dans l'ascenseur pour être sûr de croiser les mannequins. Donc c'était exactement ça. Et il y avait que des filles sublimes qui venaient à l'étage. Et je savais que derrière cette porte.
Il se passait
la Vivement la fête des voisins.
La porte des fantasmes.
C'est pas la fête des voisins,
la salade de riz.
Donc il y a le délire. Ça va, j'étais suffisamment.
C'est super, ça nous fait rêver. Enfin, moi, ça me fait rêver.
Mais après, je vous donnerai le nom surtout de la personne. Puisqu'elle est connue. Et donc, Guillaume Zonguedac, votre personnage fantasme cette voisine en disant. C'est comme si une star de cinéma en fait pouvait apparaître.
Oui, il dit ça. Il dit mais elles sont dans les films ces filles-là normalement. Et surtout ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui est très joli, c'est qu'il est marié depuis 7 ans et il est fidèle dans l'écriture. Par contre, il avoue la tentation. Il dit oui, j'ai été tenté. Qu'est-ce que j'ai eu comme occasion? Il se vante un peu parce qu'il parle tout seul au public. J'aurais pu tellement de fois, etc. Puis il y est jamais allé. Sauf que là, c'est un raz-de-marée qui arrive dans sa vie. Alors peut-être qu'il y a l'usure du couple. Le chiffre 7, c'est un chiffre
qui soit disant un virage.
Magique, etc. C'est un nombre premier en mathématiques, c'est ça, pour ceux qui ont fait des maths. C'est un nombre un peu bizarre. Chez Shakespeare, il y a des
trois
employés.
Trois aussi est un nombre premier.
Trois aussi, mais trois, oui, on y croit encore. Alors que sept, bon, on peut commencer à douter. Et justement, c'est de ça dont la pièce parle, quoi.
Et quand vous apparaissez, Alice Dufour, vous êtes Jessica de Roger Rabbit. C'est-à-dire que c'est
du. J'adore.
C'est la pin-up de Tex Avery, c'est le loup.
C'est l'apparition.
Exactement.
Si vous pensez à ça, c'est que le pari est réussi.
Ah non, mais c'est réussi
ça
parce
marche,
que
ouais.
c'est
moi, tellement c'est autre chose.
Je confirme, Alice, ça marche vraiment beaucoup, quoi.
J'ose pas dire.
Oui, je confirme aussi.
Petit un, vous, votre déhanchement, la manière dont vous apparaissez est extra. Non, mais c'est
l'impression que vous avez une prothèse.
On est dans le au niveau des hanches.
Déhanché.
Ouais, c'est ça.
Ça fout la tête bassin.
Je vous apprendrai.
Et ce qui est important, non, surtout pas. Je vous en supplie.
Non, j'ai l'image.
Je veux voir.
Très bien.
Avec 3 grammes.
Merci. Non, et ce qui est fort, Alice, c'est que vous réussissez à incarner cette Jessica de Roger Rabbit sans tomber dans le sketch, dans la lourdeur dont on parlait tout à l'heure, c'était aller trop loin et en faire trop. Et c'est extrêmement sexy, sensuel. Et en effet, on arrive presque dans le monde du dessin animé, c'est-à-dire que ça en devient drôle sans être ridicule. Et c'est là où c'est vraiment une réussite, parce qu'on comprend le trouble et on comprend bien que c'est l'imaginaire de Guillaume Zonguedac, de son personnage qui est en train de vous voir comme ça, vous déhancher et vous...
C'est le profil de la femme fatale à cette époque.
Exactement.
Voilà. Mais pour le coup, là, c'est vraiment aussi... donc, merci, mais il y a aussi la mise en scène, la musique
Stéphanie
de
Hélène.
François Perroni, la mise en scène, voilà, les lumières, la mise en scène, tout.
Puis mon regard sur toi.
Il y a toute une ambiance. Alors, justement,
qu'est-ce qu'il... Il vous fait pas des petits clins d'œil quand on le voit pas face à la scène, Guillaume Zonguedac?
Il rit.
Il est rieur. Il a un regard qui frise.
Alors quand je joue la bad girl, j'ai pas envie d'avoir un smiley devant moi, sinon ça me déstabilise.
La peau, je sais pas comment elle fait.
Mais c'est mieux. L'autre fois, il m'a foutu un coup de pied. Il a fait... Oh pardon, il me dit.
Qu'est-ce qu'il penserait Michel Bouquet?
En fait, il y a une deuxième vie sur scène, quoi. On se rend pas compte.
Oui, heureusement, il vaut mieux pas savoir. Il y a une vie parallèle. Hein. C'est pour ça que ça paraît si intéressant à regarder. On se dit, tiens, ils ont l'air habités. Ben, tu parles.
On continuera de parler jusqu'à midi et demi de cette pièce, 7 ans de réflexion. C'est au Bouffe Parisien, porté extrêmement bien joué par Alice Dufour, Guillaume de Tonquédec et toute la troupe dont je vais redonner les noms.
Merci pour eux, ouais, c'est sympa. François Burlou, Clément Coche, Agathe Drone et Jacques Fontanelle.
Voilà qui est fait. Tout de suite, François, des révélations à faire.
Salut les amis. Salut Nagui, coucou Alice et coucou Guillaume. Quelle pièce emballante, quelle adaptation excellente, quelle mise en scène intelligente, quelle interprétation succulente. Alice, alias la jeune femme, the girl, si troublante, déhanchante. Et Guillaume, alias Richard, en proie à des tentations égarantes. Et pourtant Nagui, je dois te faire part d'une déception désolante.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Qui, je te rassure, ne concerne que le titre. 7 ans de réflexion.
Ouais.
Daniel Morin, qui était assis à côté de moi au théâtre des Bouffes Parisiens, en matinée, alors qu'il venait d'être réveillé par une de ses propres flatulences, m'a fait remarquer... m'a fait remarquer que le titre anglais de la pièce originelle de George Axelrod...
Ah, c'était quoi?
...était « Seven Year Itch ». Ce qui peut se traduire par la démangeaison de la 7e année. Un état qui correspondrait, d'après les travaux du docteur Brubaker, que Richard dans la pièce doit éditer, qui correspondrait, disais-je, à une phase d'infidélité sporadique par laquelle passent beaucoup d'hommes dans leur 7e année de mariage. À ce propos, comme me le glissait Leïla avant l'émission, je la cite, « Pour comprendre cette évidence, pas besoin d'écouter Ali Rebéi dans Grand bien vous fasse. » Et Leïla de poursuivre, « Moi, le seul grand bien qu'il me fasse, Ali, c'est quand il se tait et que l'émission finit. »
Si comment tu l'as semé la zizanie?
T'es pour la bonne ambiance, toi.
Jalouse.
Je dis la vérité.
Jalouse.
Tout ce qui se passe en coulisses. Au risque de te choquer, Nagui, toi qui es la fidélité incarnée.
Merci.
Et qui prétend n'avoir jamais été tenté de donner le moindre petit coup de canif à ton contrat.
C'est
tu
clair.
Tu confirmes?
Oui.
Menteur. Je t'avoue, car je suis ici
Alice,
pour rêver.
Alice m'a dit non, donc j'ai pas pu. Bonne répartie. Ça, c'est la répartie.
La coquine, en fait. Coquine.
Je t'avoue, car je suis ici pour révéler les vérités qui dérangent, y compris quand il s'agit de moi. Je t'avoue que je ne suis pas marié depuis 7 ans, mais je peux t'assurer que dès que je me retrouve tout seul chez moi, comme Richard, surtout comme dans cette histoire, mais qui c'est la canicule, et qu'il n'y a pas que les jours qui rallongent, et qu'il fait chaud.
Ça va aller, François?
Oui, chaud.
Je vous sens au bout du rouleau, là, François. Ouais,
très, très chaud, gêne, dans les t-shirts et dans les maillots de la Côte d'Azur à Saint-Malo. Spécial dédicace à Richard Dell. Tu chantes bien. Je me sens tiraillé, démangé, chatouillé, gratouillé, picoté, titillé partout. Et je peux te dire qu'alors, c'est tous les jours la fête des voisins, si tu vois ce que je veux dire. Venez tous à la prochaine. Bonne émission.
Merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Heureusement que le week-end arrive. Dans 7 ans de réflexion, il y a en effet ce côté, ça me gratouille, ça me démange, est-ce que je suis fidèle ou pas? Mais il y a aussi les doutes qu'il le projette sur sa propre épouse, parce que c'est...
ça ce l'arrangerait bien il va peut-être passer à l'acte, que sa femme fasse pareil.
Avec un
moniteur. Ça permettrait de le dédouaner. C'est quand même écrit par un homme.
Ça l'arrangerait bien où il la soupçonne de pouvoir le faire, comme de chercher aussi un alibi en disant elle est sûrement en train de le faire, donc moi aussi je vais pas me gêner.
Oui, c'est ça, il cherche un alibi, ouais, bien sûr, ça l'arrangerait. Et d'ailleurs, peut-être qu'elle le fait, on sait pas. Dans la pièce, elle apparaît comme fidèle, on peut pas dire plutôt fidèle, comme fidèle, mais après tout...
Ah oui, ça c'est le doute de l'homme qui va trahir, qui s'entretient dans l'histoire, qu'en fait
oui, c'est ça qui est très joli, c'est qu'il essaye de se donner bonne conscience, et évidemment tout le monde se marre dans la salle parce qu'on se dit bah on est en train de le voir faire quoi. On voit ce pauvre type se débattre, c'est extrêmement drôle parce que Axelrod il nous a mis dans la tête du personnage quoi.
Et j'ai une question dans le script, est-ce que votre personnage Alice a un prénom, parce que non. Qu'il en est pas dans la pièce, ce qui peut être compréhensible par rapport à l'histoire, mais dans le script
il le dit d'ailleurs, il dit je vous ai même pas demandé votre prénom
ça se tient par rapport à l'histoire en disant voilà il est passé à côté de ça et puis c'est finalement une représentation de la femme un peu sublimée.
Exactement.
Mais dans le script, tu peux même te demander est-ce qu'elle a jamais existé d'ailleurs.
Mais dans le script en revanche est-ce qu'il y a même pas un nom de personnage?
Non, the girl, même dans l'adaptation de Billy Wilder, the girl, mais c'est la jeune femme. Non, elle n'a pas de
même pas de prénom. C'est aussi une marque de l'époque.
Je trouve ça assez élégant.
Une marque de respect,
oui,
c'est ça.
Bien sûr.
C'est un côté pratique.
Oui, c'est ça.
Non, mais il veut parler du fantasme.
C'est un fantasme.
Oui,
tout à fait.
Oui, sauf que
est-ce que cette histoire a vraiment eu lieu? Oui. On peut se poser la question quand on sort. Peut-être que tout ça n'a été que dans sa tête.
C'est ça.
C'était un bruissement. Il a révélé ça pendant quelques jours. C'est assez joli.
Pour l'histoire, oui, pour l'histoire, je comprends, mais pour le script, je.
On est d'accord. Il y a, et puis même dans une histoire, on peut donner aussi un prénom à quelqu'un. Il y a aussi toute la psychanalyse qui est, on va dire quoi, moquée dans la pièce.
Complètement. Bah, c'est le début de la psychanalyse, hein, là-bas, je crois.
Dans les années 50.
Ouais, dans les années 50.
En tout cas, elle bat son plein, c'est très cher, on se moque du prix, et puis on se moque des méthodes. Jacques Fontanelle, qui est extrêmement.
Il a quand même des analyses un peu douteuses, quand même.
Ah oui, moi, je lui demande une analyse psychologique, et me dit surtout, il faut nier avec la plus grande vigueur. C'est le conseil qu'il donne, c'est génial.
Conseil de psy.
Ah ouais.
Voici... C'est le meilleur des conseils, entre guillemets.
Oui, toujours
mieux. On sent la pratique.
Ah, oui, on sent la pratique, Daniel.
Je vais donner de bons conseils, Nagui.
Merci, Alexis Laurentinelle.
Ah, je connais mieux comme lancement, hein. Bon, on va faire avec. Bonjour.
Tu sais quoi, change de nom déjà.
Et boum.
Il y a des gens qui regardent quand même. Hein. Alors vous le savez, moi j'aime bien mettre du fond dans mes chroniques. Malheureusement, j'échoue souvent dans cette entreprise. Parfois je me dis, merde, j'ai oublié le fond, s'ils s'en rendent compte, ça passera pas. Pourtant j'essaie de mettre du fond, parce qu'entre nous, quand je fais 5 minutes sur l'achat d'une pompe à vélo, je me dis pas super, ils ont ri. Je me dis, combien de temps ça va marcher? Bosse le contenu, Alex. Alors hier, pour remédier à ça, j'ai regardé des sites d'actu en ligne que Leïla m'a conseillé. Valeurs actuelles, minutes, égalité, réconciliation. Elle m'a dit, ces trois-là, tu peux y aller les yeux fermés, c'est mes références pour le 13 ans. Alors, parmi les articles, j'ai relevé, en politique, on nous ment sur Rouen. Alors, sujet actualité, titre accrocheur, mais bon, est-ce qu'il n'est pas temps de passer à autre chose? Économie, tant de Quechua et migrants, duo gagnant pour Décathlon. Ah, ça c'est intéressant. Société, renégocier son salaire ou se taire à jamais. Ah, là j'ai cliqué. Article réservé aux abonnés. Eh merde,
il faut payer.
On prête qu'aux riches. Hein. Au final, le seul article que j'ai lu, c'est « Les Malgaches créent la surprise au championnat du monde de pétanque ». Ça, c'est un grand classique de la revue de presse amateur. Tu survoles les titres, le seul truc que tu lis à la fin, c'est un article de 12 lignes dans la rubrique sport. Mais ça progresse, Madagascar, quand même. Hein. Maintenant, ça joue aux boules. La belle vie, quoi. D'ailleurs, j'ai des nouvelles d'Edgar Ravalorina Marana. Ça vous intéresse? Vous vous souvenez? Ouais. C'était l'anciennement le premier au classement des plus pauvres du monde. Ouais. Ben, il est 10e maintenant, parce qu'il a 6 bananes. Voilà. C'est difficile aujourd'hui de...
C'est monstrueux.
Bah c'est temporaire. Hein.
Ouais, c'est ça.
C'est aujourd'hui, quoi.
Ouais. C'est l'actu.
Ouais. C'est difficile hein, de prendre du temps de s'intéresser à des vrais sujets de société avec la pétanque. Parce qu'on est vite déconcentré. Tu vois. Je sais pas vous, mais moi, quand je vois un lien qui s'intitule « Vous ne devinerez jamais ce que cette grand-mère va faire », la vie s'arrête. Il faut que je sache. Je fais des suppositions. Je me dis quoi? Elle va faire du breakdance sur la tête, mais il y a du gravier par terre. C'est fou, quand même. Et la télé, c'est pareil. C'est pas facile de se concentrer sur un sujet. Parfois, à la même heure, t'as un documentaire sur la crise des subprimes aux États-Unis, sur Arte, et les Marseillais contre le reste du monde sur W9. Là, on est peu de choses face à la flemme de se prendre la tête, tu vois. Par nature, l'homme, il va au plus simple. Depuis l'invention des allumettes, à part Daniel, quand il organise des stages de virilité en forêt, on voit plus grand monde faire du feu avec des silex. Ben, Arte, c'est bien pour comprendre des phénomènes de société. Après, dans un dîner, tu peux dire « la crise des subprimes ». Ah ouais, c'est un reportage sur Arte, ça j'ai vu, c'est fou. Alors que tu dis rarement la crise des subprimes. Ah ouais, les Marseillais ils en parlaient l'autre jour dans la piscine, c'est vrai que... Non. Mais les Marseillais c'est léger, c'est facile à comprendre. Et ça fait du bien aussi de temps en temps. T'es là, ok, Kevin, celui qui passe son temps en slip, il sort avec Cynthia, celle qui passe son temps en bikini, ok. Mais Cynthia est jalouse de Jenny, celle qui a un accent et qui passe son temps en bikini. Parce que, je sais pas si vous le savez, mais les accents, c'est pour les identifier, en fait. Voilà. C'est comme les cloches sur les vaches de montagne. Ceux qui ont des accents, c'est les Marseillais. Voilà. Parce que c'est pas comme dans le foot où tu peux les différencier grâce au maillot. Parce que les Marseillais, c'est des minimalistes, ils portent rien, en fait, sur eux. Avant, il y avait les ch'tis à Las Vegas pour la même raison, voilà, c'est l'accent. Ils ont pensé faire les Bordelais à Miami, mais ça marche pas. Les Bordelais, ils sont trop polo, bermuda rose et chaussures bateau. Ça fait trop hiver, si tu
veux. Il n'y a pas d'accent, surtout.
Il y a un accent à Bordeaux.
À Bordeaux,
oui. Ouais.
Les Bretons, c'est pas possible non plus. Il y a trop de rayures sur l'écran.
Fais-moi l'accent bordelais un peu pour voir.
Alors, je me rends compte aussi que plus je regarde Arte, plus j'ai envie d'approfondir certains sujets. Mais j'ai pas le temps. Et c'est frustrant, j'ai l'impression d'accumuler du retard intellectuel. Alors que sur W9 ou Énergie 12, ça me fait pas cet effet-là. Je me dis pas, merde, j'ai raté tellement vrai, je suis sûr qu'ils ont parlé des investissements chinois en Afrique du Sud. Tu vois, non. Heureusement, j'exerce pas un métier qui exige une grande culture. La semaine dernière, j'ai dit Laurence Bloch au lieu de Laurence Bloch, ça vous a fait marrer. Je dis, pas besoin de se casser la tête. De toute façon, quand je vois les gens rire aux larmes devant des vidéos de chat, je me dis, la profession, elle a encore quoi, 10 années devant elle? Après, c'est fini, tu vois. Un jour, un producteur fera monter un chat sur scène, on lui lancera des concombres et adieu les comiques.
Ah, c'est vrai, chat.
En plus, un chat, ça coûte pas cher. Un peu comme moi, quoi. Allez, bon week-end, messieurs.
Merci, Alexis Rossignol.
Et on retrouve Alexis Rossignol au point virgule.
Tout à fait.
Toujours, jeudi, vendredi, samedi.
À 19h.
Voilà.
Et au bouffe parisien.
Ah non, ça je...
Tu peux venir en première partie.
Ah ouais. À volonté.
Ça, c'est la musique justement de 7 ans de réflexion.
Ouais.
Le thème
François Perroni.
Original. Mais rien que la musique, on est déjà dans la comédie d'époque, hein, j'ai l'impression.
Oui, Stéphane, il a voulu vraiment monter la pièce dans son jus. Il a gardé exprès les années 50. À Manhattan, les accessoires, les costumes qui sont assez sublimes en effet, notamment pour les femmes. Et comme par hasard, évidemment, en le laissant dans son jus, ça parle évidemment de ce qui nous arrive à nous tous aujourd'hui, quoi.
On va parler de musique avec vous aussi, les musiques que vous écoutiez dans les fins des années 80, Alice Dufour.
Ah ouais.
Elvis, vous avez grandi avec Elvis à la maison ?
Non, en fait, c'était la musique de mon premier enchaînement de gymnastique rythmique. Oui.
Ah oui, vous avez été championne de
j'avais
France,
8 ans. Oui, en national, oui.
Ah ouais.
Mais j'avais 8 ans et c'était un enchaînement à la corde sur cette musique. Voilà. C'est ma maman qui l'avait choisi. Encore ma maman.
toujours maman.
Vous voyez,
et maman faisait de la gymnastique aussi. Comment vous en êtes arrivée à la gymnastique rythmique?
En fait, j'ai commencé la danse classique à 6 ans et je m'y ennuyais un peu. Pas que la danse classique est ennuyeuse, mais je pense qu'à 6 ans, j'avais qu'un cours par semaine ou quoi. Et je faisais tout le temps des acrobaties à la maison, tout ça. Donc elle m'a envoyée au club de gymnastique.
Sans savoir vraiment ce
non.
que c'était?
Non, sans savoir. Donc, elle pensait m'inscrire à la gymnastique artistique normale.
Pour canaliser votre énergie.
Oui, oui, voilà. Et après, j'y suis allée. Voilà, j'en ai fait pendant 16 ans.
Ouais. Guillaume Tonquédec, vous écoutiez à ce moment-là, David Bowie.
Oh, j'adore. Souvent.
On se rend compte que Nagui a eu la chance de toucher David Bowie, il l'a reçu dans Taratata.
J'ai même touché plusieurs fois.
Ouais.
Mais plusieurs fois. Bah. Grand bonhomme. Grand bonhomme.
Après, il a touché la
chance, tu vois.
Ouais.
Et puis toi.
Tu vois, c'est pas bon.
Bah non, mais c'est mérité, c'est mérité.
Je tire ce gagnant.
C'est pour les risques.
Bah oui, maître Ginks, Fred Sigris.
T'imagines, du coup, je suis tombé.
On est vraiment dans le coin des
Vous écoutez David Bowie, ça vous renvoie quelles images vous voyez où dans votre vie?
Bah, c'est-à-dire d'abord c'est un choc, c'est une cousine à moi, Astrid, que j'embrasse, qui m'a fait écouter ce titre. La première fois, j'étais en plein, comment dire, on va dire un petit chagrin d'amour. Alors voilà, elle m'a fait écouter ça et franchement, c'est lié à ce moment-là de ma vie. Et surtout, quand on écoute ça, enfin, c'est tellement profond immédiatement, tellement fort, tellement.
Oui, mais ça sort pas justement d'une séparation sentimentale. C'est-à-dire qu'on écoute ça, on pleure encore un peu plus.
Ah oui, mais bien sûr. Alors c'est assez attaché à ce souvenir, mais je en dehors de souvenir qui est maintenant lointain, c'est
et qui fait encore mal, j'ai l'impression.
Ouais, non, c'est pas faux.
Vous voulez qu'on la
belle souvenir là font mal.
Ça fait toujours
la
mal.
La pauvre.
Eh bien, elle est là.
Vous l'aviez pas reconnue.
Mais c'est tellement fort comme musique, franchement. C'est tellement. Enfin, je sais pas, j'adore ça. Quoi.
Et c'est pendant le cours Florent, la rupture amoureuse, avant, après?
Ah, c'était avant.
C'était avant, ouais. Donc ça fait quoi? C'est quand on parlait
parce
tout
que,
à l'heure.
D'un... C'est le conservatoire, je crois, des années où toi c'était 86. Oui, c'est ça. Je sors du cours Florent, je rentre au conservatoire.
Ouais. On disait tout à l'heure qu'il fallait avoir une expérience de vie pour jouer sur scène. Ouais. Est-ce qu'on se sert de ça aussi, d'une rupture amoureuse, en se disant voilà, j'ai été au plus mal et je peux restituer sur scène cette sensation?
Je pense qu'on est obligé de faire avec ce qu'on est, ouais, quand on joue quelque chose, et puis avec son imaginaire, parce que heureusement, si on joue un tueur en série, on n'a pas besoin, heureusement, de l'avoir fait, mais on se sert forcément de ce qu'on est, ouais,
ça
bien
aide.
Sûr.
Ouais.
Donc finalement, c'est plutôt un service, cette rupture.
Oui, ouais. Bah oui, je la remercie d'ailleurs.
Mais la vie est un service.
T'as raison.
En 2010, Alice Dufour, vous écoutiez.
Danny Elfman.
T'as reconnu Fred?
Oui, Danny Elfman.
Ouais,
alors, ça peut être.
C'est une pub pour du chocolat, non?
Edouard Romain d'Argent.
Edouard Romain d'Argent.
Enfin, c'est... Oui.
Et pourquoi cette musique, Alice?
Danny Elfman, parce que c'est celui qui a composé la musique du spectacle Iris, du Cirque du Soleil, dans lequel j'ai travaillé pendant 2 ans à Los Angeles et j'étais fan de lui depuis que j'étais petite, sans connaître son visage, rien, mais parce qu'en gymnastique, pardon, hein, mais j'y reviens toujours, on doit choisir beaucoup de musique pour les enchaînements. Et Danny Elfman était vraiment une source d'inspiration infinie, quoi. Et quand j'ai pu rencontrer, quand j'ai su déjà que c'est Danny Elfman qui allait faire, qui allait composer la musique du spectacle dans lequel j'allais jouer, et que j'ai pu le rencontrer, c'était incroyable.
Et vraiment. C'est un spectacle que vous avez joué Alice 562 fois. Oui. Alors peut-être que ça a un peu évolué depuis. Non, je sais pas. C'était le chiffre dans une interview.
Ah non, non, c'est ce que j'ai joué pendant
562 fois.
Oui. Oui, j'ai raté aucun spectacle.
Et vous faisiez quoi dans le spectacle? Parce que le Cirque du Soleil, c'est à la fois à la fois un cirque au sens spectacle du terme, mais qui est pas traditionnel. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien des cascadeurs que des danseurs. Ouais. Voilà, il y a pas d'animaux. Ouais.
Le Cirque du Soleil, donc c'est une entreprise canadienne. Ouais. Il y a une vingtaine de spectacles dans le monde. Il y en a 10 résidents. Résidence, c'est ce qu'on appelle des spectacles Vegas, dans... Voilà, Las Vegas, il y en a 7 et 3 ailleurs. Bon. Et après, il y en a 10 en tournée. Donc moi, c'était un des spectacles résidents à Los Angeles. Et il y avait 72 artistes avec les
et vous faisiez quoi?
Je jouais Scarlett. C'était une histoire d'amour entre Buster et Scarlett. Ça se passe dans les années 20. Ça parle de cinéma. C'était mis en scène par Philippe de Coufflet. Et je jouais Scarlett, qui était une jeune danseuse au ruban. Donc la gymnastique rythmique m'a beaucoup aidé pour ça. Okay. Et qui devient star de cinéma.
Ouais. Très bien. Mmh. Guillaume de Tonquédec, vous écoutiez dans ces années 2003, 2010 pardon, Étienne Dao. Se réveille, l'eau qui dort, un moment clair où je me confonds à ta chair. On sent que vous écoutez la musique pour vous mettre de bonne humeur. Hein. C'est le premier réflexe.
Et cette deuxième rupture, là
cette deuxième rupture. Non, j'adore Étienne
Dao. Sublime Dao.
Bah, ouais, j'adore. Ouais. Je le connais pas, j'adorerais le. J'ai jamais vu un concert, c'est une honte, mais on joue trop, on a pas
non,
de temps à aller voir
mes copains. Mais en tout cas, il va bien dans la famille David Bowie, Étienne Dao, ça c'est sûr.
Il va bien dans la famille David Bowie, et puis il se trouve que je jouais le prénom à cette époque-là au théâtre qui est devenu un film, et on reproche au personnage, ou plutôt on lui dit, mais tu écoutes ce chanteur-là, donc on suppose des choses sur lui, et il se trouve que moi j'adore Dao, donc ça m'a beaucoup troublé de lire dans le texte de Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte cette réplique.
Une vanne qui n'était pas très délicate.
Non, qui n'était pas très délicate, ouais. et du coup, en allant au théâtre, j'écoutais Dao, et même en sortant du théâtre dans ma voiture, ou voilà, dans la rue, j'écoute Dao. Voilà.
Est-ce qu'il y a des musiques...
Donc il est lié très fortement à cette époque-là, et à l'époque du prénom.
Est-ce qu'il y a des musiques qui vous aident à incarner justement des personnages, que ce soit au cinéma ou au théâtre, qui vous met dans un état.
Ouais, ça me met dans un état. Ouais, franchement, je pourrais pas vivre sans musique. Il y a même des moments où il vaut mieux que j'ai pas de musique pour essayer de rester dans l'état dans lequel je veux rester, parce que immédiatement ça m'emmène ailleurs, quoi. La musique, c'est un élément essentiel de la vie, je trouve, quoi. Enfin, vous êtes bien placé pour le savoir, quoi.
Et le prénom, c'est pas juste un succès, c'est un phénomène. La pièce de théâtre, déjà pour commencer, c'était au théâtre Édouard VII. À l'époque, et c'est Bernard Murat qui mettait en scène et qui dirigeait aussi le théâtre. Comment est-ce que vous expliquez ce triomphe, parce que ça a été rempli très très vite pendant très très longtemps. C'était vraiment, même il fallait se bagarrer pour avoir une place.
Oui, quand je rencontre des gens qui m'ont dit j'ai vu le prénom, je leur dis vous avez vu la pièce ou le film? Quand ils me disent la pièce, je leur dis mais quelle chance vous avez, parce qu'il y a eu que 250 représentations de 720 places, donc il y a un chiffre fini, on peut pas, une fois que c'est plein. Et pourquoi? Je crois que c'est le génie de l'écriture des deux, quoi. C'est leur première pièce, c'est des scénaristes de cinéma qui viennent au théâtre et ils écrivent ce texte qui est absolument c'est parfait, l'intrigue, on est forcément même les soirs où avec toute l'équipe c'était un peu plus froid au démarrage, le public peut être plus moins disposé. À la fin, tout le monde était chauffé à blanc, tellement la mécanique de l'écriture était parfaite. Et puis, hommage à toute l'équipe de ceux qui ont joué ça, à la création, c'était vraiment des gens, c'était parfait pour les personnages, et c'était un souvenir très important pour moi, très, très émouvant et très drôle aussi, quoi. Beaucoup, beaucoup de souvenirs. J'embrasse Valérie Benguigui, là où elle est. Voilà.
Retour aujourd'hui au Bouffe Parisien avec 7 ans de réflexion, cette pièce de Georges Axelrod que Alice Dufour et Guillaume de Tonquédec jouent en ce moment. Emmanuel Burdeau nous a rejoint. Bonjour Emmanuel, vous étiez rédacteur en chef au Cahier du Cinéma, vous êtes journaliste et critique de cinéma et vous venez d'écrire un essai sur Billy Wilder, c'est aux éditions Luxe,
ouais.
C'est ça. Billy Wilder, Gravité, c'est le titre, le rapprochement des deux, expliquez-nous.
Ben, le rapprochement, en fait, on peut le faire par cet temps de réflexion et par l'image la plus connue de cet temps de réflexion, qui est l'image de Marilyn au-dessus de la bouche de métro, qui est une image qui résume le cinéma hollywoodien, qui résume la grâce de Marilyn et la grâce du cinéma de cette année-là, mais qui en même temps est une image qui n'est possible que parce que sa jupe est soulevée par l'air du métro. Et en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup des films de Wilder, des phénomènes de gravité. C'est-à-dire comme si une forme de légèreté chez lui n'était possible qu'à être... Il faut soulever pour ça. Voilà. Donc, le titre Gravité est un peu paradoxal parce que c'est un cinéaste de comédie. Et en même temps, j'essaie de montrer que chez lui, la comédie a à voir avec des phénomènes comme ça, physiques et très, très matériels.
Le sujet de l'adultère, justement, autour de cet temps de réflexion, dans l'époque, pour resituer les années 50, c'était choquant.
Alors oui, c'était Wilder en plus, c'est un cinéaste qui était particulièrement connu et même d'une certaine manière craint pour ses audaces et pour aborder des sujets qui étaient difficiles à l'époque. Bon, il se trouve que l'adultère, je suis pas du tout spécialiste de ça, mais
vous êtes passé de l'adultère au spécialiste Wilder.
Alors je suis plus spécialiste de Wilder que de l'adultère quand même. En fait, je crois que dans le cinéma de ces années-là, si quelqu'un se rendait coupable d'adultère, ce qui n'est... alors dans le film c'est pas très très clair, mais si quelqu'un se rendait coupable d'adultère, il était entendu qu'il devait d'une certaine façon être puni à la fin du film. Il ne pouvait pas en rester là.
Et on peut pas sortir grandi d'avoir trompé sa femme au cinéma dans les années 50 à Hollywood.
Non, et je pense qu'il ne s'agissait pas simplement pour le personnage masculin, parce que c'était quand même plutôt en général le personnage masculin, de revenir au sein de son mariage, mais il fallait qu'il en ait aussi tiré une leçon, que ça lui ait mis du plomb dans l'aile, quoi. Voilà.
Faut préciser que cet temps de réflexion était une pièce avant d'être le film de Billy Wilder. Il y a une adaptation faite entre la pièce et le film de Billy Wilder. Guillaume Tonquédec,
ils ont écrit, c'est Axel Rod qui a écrit la pièce. Billy Wilder s'est emparé de la pièce pour l'adapter, mais il y avait le fameux code AES, H-A-Y-S aux États-Unis, du nom d'un sénateur américain, on était en Amérique puritaine, qui interdisait de montrer certaines parties du corps, de montrer un baiser langoureux de plus de X secondes. L'homosexualité n'existait pas dans ce monde-là, bien sûr, et il était absolument interdit de faire l'apologie de l'adultère. Donc Billy Wilder a été obligé, il a été contraint, il était assez furieux, il le raconte dans ses mémoires. Il n'a pas pu faire le scénario qu'il voulait, parce que c'est évidemment puisque c'est le sujet de la pièce, comment adapter ça au cinéma sans en parler. Donc on lui a même refusé une scène où il a dit, je voudrais au moins que la femme de ménage retrouve l'épingle à cheveux de la jeune fille dans le lit conjugal. Donc je ne montre rien, mais on comprend ce qui s'est passé. Je peux garder mon sujet. On lui a interdit le fameux code S aux États-Unis.
C'est dingue.
Donc alors qu'on pouvait le faire au théâtre. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà.
Et donc le film est plus connu que la pièce.
Oui, le film est plus connu que la pièce. Alors c'est dans l'œuvre de Wilder. Donc le film date de 55. C'est un moment un peu particulier dans son œuvre. C'est un petit moment de creux, si on peut dire, parce que Wilder a travaillé d'abord avec un co-scénariste très célèbre qui s'appelle Charles Brackett, jusqu'en 51, avec qui il a fait Sunset Boulevard, avec qui il a fait Assurance sur la mort, des films extrêmement célèbres. Et puis ensuite, en 57, il commence à travailler avec un autre scénariste qui s'appelle Diamond, avec qui il va faire notamment certaines mêmes choses, donc des films aussi, des Apartments, enfin La Garçonnière. Voilà. Là, c'est un moment un peu entre les deux où il multiplie les collaborations.
Oui, parce que là, l'homosexualité n'existait pas, et dans certaines mêmes choses, c'est Nobody's Perfect. C'est-à-dire, c'est la scène culte, là aussi.
Scène culte, oui. Oui. Mais d'ailleurs, ce qui est très étrange, c'est que c'est un film qui va très loin sur le travestissement, et en même temps, c'est un film, d'ailleurs c'est comme ça que les critiques l'avaient reçu à l'époque, certains critiques se félicitaient que l'homosexualité n'y était pas abordée, alors que d'une certaine façon, elle est manifeste.
Elle est constante.
Est-ce que c'est l'une des premières collaborations avec Marilyn Monroe, parce que il y a une histoire?
Alors, ils ont fait deux films ensemble, donc celui-ci, c'est en réflexion, et puis, 4 ans plus tard, certaines mêmes choses. Et...
Il y a une liaison entre les deux.
Non, je veux dire
ce que Wilder a beaucoup raconté, parce que c'était un conteur extraordinaire, c'est que Marilyn était une actrice extrêmement difficile. Il a raconté avec, je pense, un mélange de cruauté et aussi d'attendrissement.
Difficile, ça veut dire qu'elle n'était pas bonne comédienne pour lui, ou elle était difficile?
Il fallait parfois 50 répliques pour qu'elle dise bonjour, d'après ce qu'a raconté Wilder.
D'accord.
Parce qu'elle était, je pense, extrêmement consciencieuse, parce qu'elle avait un coach qui travaillait, je crois, pour l'acteur studio, parce qu'elle voulait, bien faire, parce qu'elle se sentait mal, parce qu'elle n'était pas à l'aise. Et peut-être que pour elle, jouer ce rôle qui est elle, en fait. C'est pour ça qu'elle a pas de nom dans le film. Et d'ailleurs, dans le film, la seule fois où elle est nommée, où le personnage est nommé, quelqu'un dit, c'est Marilyn Monroe. Mmh. Un type vient rendre visite au personnage
et lui dit
j'ai une blonde dans ma cuisine, et le type dit t'as une blonde dans ta cuisine, et il dit ouais, et c'est Marilyn Monroe. Voilà. Donc elle joue son propre rôle d'une certaine façon.
Ça, c'est une vanne. C'est une vanne, mais qui est très forte.
Et
vanne que vous avez gardée d'ailleurs dans l'adaptation.
Oui, ça a été rajouté par Billy Wilder. Je crois que c'est pas dans la pièce originale. Ça a été rajouté par Billy Wilder.
Vous l'avez gardé, d'accord.
On l'a gardé parce que c'est évidemment très drôle, quoi.
Bien sûr.
Et une des choses, pardon, que racontait Wilder, c'est que c'est ses retards. Je pense que Wilder est quelqu'un d'assez dur, dur au travail et assez.
On peut le comprendre quand il y a une journée entière de techniciens à payer et qu'elle vient pas. Ça coûte très cher.
Et là, elle pouvait arriver 5 ou 6 heures en retard. Et Billy Wilder, qui était d'origine polonaise, a dit souvent, une phrase assez drôle, il a dit souvent, moi j'ai une vieille tante en Pologne qui est toujours à l'heure, mais personne n'a envie de travailler avec elle. la différence de Marilyn Monroe.
Et à propos évidemment de cette fameuse scène culte, il y a beaucoup de choses qui sont racontées autour de la bouche de métro et de la jupe de Marilyn qui se soulève. Est-ce que il est vrai qu'elle a été tournée dans la rue, une véritable bouche de métro, mais qu'il y avait une émeute de public autour et donc ils ont été obligés de ne plus la tourner et d'aller en studio recréer la scène, ça c'est vrai?
Oui, ils l'ont fait. C'est ce qui se dit, oui, ils ont fait. La scène a été tournée deux fois. Une première fois, la nuit, minuit, 2h du matin, là où ça se passe, je crois que c'est sur la 52e rue, enfin peu importe, et qu'il y avait un attroupement absolument énorme de photographes, de badauds, et que
c'est devenu une sorte
de happening, et que, selon la légende, mais semble-t-il c'est vrai, parmi les gens attroupés là, il y avait celui qui était à ce moment-là le mari de Marilyn Monroe, l'ancien joueur de baseball Jody Maggio, qui a énervé particulièrement de voir que son épouse était exhibée, quoi.
Et oui, parce qu'on voyait la culotte de Marilyn Monroe, ça l'a énervé.
Ça l'a un peu énervé, semble-t-il, et il semblerait que, alors leur mariage battait déjà un petit peu de l'aile, mais il semblerait que cet épisode, et hâter un peu la fin de la
précipiter le divorce. Qu'est-ce qui fait la force de Billy Wilder dans sa modernité aujourd'hui, puisque encore une fois on est allé voir la pièce hier. On est bien conscient que il n'a pas écrit la pièce, mais il l'a repérée entre guillemets et il en a fait.
C'est Marilyn qui l'a repérée.
C'est elle qui l'a portée à Billy Wilder.
Que c'est Marilyn Monroe qui avait vu la pièce à Broadway, d'accord, à New York, et qui a demandé à la Fox d'acheter les droits de la pièce. Et la Fox a dit, d'accord, on achète les droits, mais en échange, vous acceptez de jouer dans There's No Business Like Show Business, La Joyeuse Parade, qui est un film
moyen,
pas terrible, mais bon, elle a accepté, donc elle a joué dans La Joyeuse Parade, et en échange, elle a pu jouer dans Sept ans de réflexion.
Ah ben merci Alice, information que j'ignorais totalement. La patte de Billy Wilder, pour terminer, c'est un cinéaste d'une époque, c'est un cinéaste au contraire qui analyse la nature humaine et ses rapports.
Si on s'en tient à ce film-là, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, il y a un truc qui se passe de très fort dans le cinéma américain du milieu des années 50. Là, c'est l'histoire d'un type, alors je pense que c'est vrai au théâtre, mais ça, évidemment, ça place plus au cinéma. C'est l'histoire d'un type qui se fait des films, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment un moment où le cinéma, où la comédie, on peut dire gagne, alors ça peut amener de la lourdeur, mais gagne en réflexivité. Donc dans le film, il y a quelque chose qui est très wilderien. Je suis désolé, j'ai pas vu la pièce, je sais pas comment la pièce, ni à New York à l'époque, ni maintenant.
Venez la voir ce soir, Bouffe Parisienne, 20h30, durée 1h30, formidable, des gens.
J'aimerais bien.
Au-delà du fond et de la forme, la pièce, je vous encourage réellement, vous avez passé 1h30 de plaisir, et ensuite, quelques moments de réflexion autour d'un verre avec des potes, mais il y a la scène culte de la robe qui se soulève.
Qui n'existait pas dans la pièce, pour le coup.
Non, et pour le plus grand plaisir des spectateurs, des Bouffes Parisiens, évidemment. Mais il y a cette scène parce qu'il fallait aller au bout du clin d'œil.
Bah, c'est un joli clin d'œil.
Tout le monde nous a dit, mais comment vous avez fait pour la scène de la robe qui n'existe pas dans la pièce, puisque tout se passe dans un appartement.
Donc vous êtes senti obligé
de la
produire.
Il n'y a pas de bouche de métro dans l'appartement. Ouais. Mais il a trouvé une idée, qu'on ne dévoilera pas là, voilà, qui est très jolie, qui tombe à un très bon moment dans la pièce.
Très bonne vanne d'employer le terme dévoilé au moment où une robe se soulève. C'est formidable. C'est la classe de Guillaume Tanquédec. Merci Emmanuel Huyraud d'être venu. Je rappelle, Billy Wilder Gravité, c'est aux éditions Luxe. Tanguy Passureau, bonjour.
Bonjour.
Tanguy, une étude sur l'éjaculation précoce. Merci de faire cet enchaînement. Voilà. J'en ai plein la bouche.
T'es sérieux?
Non, j'ai bafouillé, c'est tout. vient de pas rentrer
à la maison.
Vient de paraître.
Rentre nulle part.
Oui, Nagui. Et cette étude dit que cela concerne un jour ou l'autre 70% des hommes. Donc en fait, on s'en moque un peu, mais c'est très commun. C'est comme le fait d'écouter Christophe Maé. Or, les mecs sont très complexés par rapport à ça. Tout à l'heure, Nagui, vous m'avez dit, mais que faire? Bref, une chronique pour nous, les gonzes, tout à l'heure.
C'est ça, à part bafouiller. Voilà. On en reparlera après les infos de midi. Merci, Laetitia Gaillet. On vous retrouve à 13h pour le journal de
13h.
Toute l'après-midi, vous serez là pour nous informer. À tout à l'heure. La bande originale avec Léa Calogodadi, Daniel Morand,
bonjour Nagui,
Albert Algoud, Tanguy Pastureau, bonjour Frédéric Siris,
bonjour,
et nos invités, j'ai oublié Alexis Le Rossignol, pardon, là, évidemment, et nos invités Alice Dufour et Guillaume Tonguedec. Nous parlons de 7 ans de réflexion, c'est au Bouffe Parisien, cette pièce que vous interprétez tous les soirs. Et alors les matinées, expliquez-moi le samedi, le dimanche, puisqu'on arrive au week-end. Vous jouez deux fois
tous les jours à 20h30 du mardi au dimanche. Et les samedis, on joue à 16h30 et 20h30 et les dimanches à 15h.
Waouh,
ouais, 15h, fait... oui, j'en perds ma voix.
À vos côtés, Agathe Drone, Jacques Fontanelle, François Burlou, Clément Coche, et la mise en scène impressionnante est signée Stéphane Hillel. Justement, à propos de cette mise en scène, et on a les didascalies de la pièce comptées par une voix off et un parallèle fait entre le chasseur de bison et le mâle que vous incarnez, Guillaume Tonquédec. Ça, c'est dans la pièce aussi?
C'est dans le film, et j'ai suggéré à Gérald Sibleras, qui a très très bien adapté, de garder ça parce que je trouvais ça très très drôle.
Pour préciser, c'est des Indiens qui...
C'est des Indiens, voilà.
C'est l'idée de l'intemporalité.
Oui, il se passe toujours la même chose.
Et de se dire que c'est dans la nature humaine d'être...
C'est dans la nature humaine, c'est pour ça que la pièce marche, a une telle résonance aujourd'hui. C'est que ça a beau avoir été écrit dans les années 50, ça parle bien de sujets qui nous concernent tous et qui nous concerneront tous tout le temps.
Il y a le côté, oui, onirique de la pièce, où on ne sait pas finalement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, même s'il y a suffisamment de codes de lumière, de musique et de situation pour que l'on sache qu'on est plutôt dans la tête de l'un des personnages, parce qu'il n'y a pas que l'homme qui rêve aussi, on peut se mettre de tous les points de vue, on peut imaginer aussi que c'est the girl, que c'est la fille, la jeune fille qui elle aussi est en train d'imaginer des choses. La psychanalyse est présente et il y a des moments de flottement comme celui que je suis en train de vivre en ce moment.
C'est une violence rare à l'égard des femmes, disant voilà les femmes ne, enfin le psychanalyste en question, en disant que de toute façon la femme ne voit pas l'adultère. Il y a quand même tout un tas de préjugés, de clichés qui sont balancés là, mais dont on s'amuse vraiment, oui, puisque le personnage est un peu ridicule.
La manière dont est traité le personnage masculin est quand même assez acerbe aussi. Hein. Enfin, c'est ça surtout.
J'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'est que les deux personnages se parlent. Oui. Et on se pose aussi la question de savoir est-ce que l'un des deux peut tomber amoureux dans cette histoire d'adultère ou non. Oui. Donc il y a cette psychanalyse, il y a ce dialogue avec soi qui est quand même le principe de la psychanalyse.
Ce que j'aime bien, c'est ce que je disais, c'est que c'est une histoire, que c'est pas que l'histoire d'une nuit, c'est pas que la coucherie d'un soir. C'est pas que ils vont s'en trouver transformés tous les deux. Elle va avancer un peu sur son point de vue de la relation amoureuse qu'elle aimerait construire, et pourquoi pas pour la première fois de sa vie penser éventuellement au mariage, et se dire j'ai débarqué dans l'univers d'un homme marié qui aime visiblement sa femme, puisqu'il l'a dit, elle le sent, ils ont un enfant, et elle se dit c'est assez beau de construire quelque chose. Donc et lui c'est là où la pièce, on peut discuter de la moralité de la pièce, se dit c'est formidable, il y a deux jours j'étais pas sûr d'aimer encore ma femme et aujourd'hui j'ai plus aucun doute après cette histoire. Alors que penser de ça? Est-ce qu'il faut tromper l'un ou l'autre dans le couple pour que le couple dure? C'est une vraie réflexion.
Je pense que c'est une bonne réflexion.
Moi qui sommes en couple depuis 7 jours, oui. Je pense que...
7 ans de réflexion, c'est au Bouffe Parisien avec Alice Dufour et Guillaume de Tonguedec qui sont nos invités jusqu'à midi et demi. Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, vous voulez nous parler d'éjaculation précoce?
Oui, alors d'abord, qu'est-ce que l'éjaculation précoce pour Albert Algoud qui a renoncé au sexe en 92 après avoir vu dans les couleurs de Canal+, José Garcia nu lancer des saucisses sur Antoine Decaune en slip? Eh bien, c'est ce phénomène qui fait qu'à peine dessapé, quand l'autre vous dit « Bichon, on va passer un bon moment », vous êtes obligé de répondre « En fait, tu vas passer un bon moment parce que moi, ça y est ». L'avantage, c'est qu'on ne perd pas de temps et ensuite, on peut écrire des chroniques. Comment croyez-vous que Daniel Morin peut bâtir une telle carrière? Et il s'agit du trouble sexuel masculin le plus courant de devant le fétichisme des pieds, qui consiste pour un adulte au spectacle Le Soulier qui vole à hurler à Chantal Goya, retire-moi cette grolle chaudasse, et même devant le centrisme, c'est comme le tantrisme, sauf qu'on transpire désir en pensant fort à Emmanuel Macron. Alors, selon une étude parue cette semaine, 71% des hommes ont été ou sont concernés par l'éjaculation précoce. Donc, c'est plus répandu que la mauvaise toux à Rouen. C'est-à-dire que là, dans le studio, nous avons une dizaine d'hommes, et bien rien qu'en entendant ma voix, 7 ont déjà joui. Mais ils n'en parlent pas parce que c'est tabou, à cause de la pression de la société qui pousse l'homme à être performant. Parce que, mettons, il y a 30 ans, par exemple, le sexe, c'était simple. On faisait ça le dimanche après-midi, mollement, sur un canapé en sky, ce qui fait que parfois ça faisait ventouse, on restait la semaine avec le canapé accroché dans le dos. Hein, et à part si vous étiez vendeur chez Queer Center, bon, l'employeur n'appréciait pas. On faisait l'amour tranquillou devant Jacques Martin. Et quand l'érection arrivait pile au début de l'école des fans, c'était le signe qu'on avait un souci. Mais aujourd'hui, nos références viennent toutes du X, accessibles sur le net. Des vidéos où les gens le font dans 190 positions, sans les mains, avec la tête. Enfin, ils sont tellement emmêlés que quand c'est de l'interracial, on a l'impression de voir un Rubik's Cube. Même Thomas Pesquet vend sous le manteau sa sextape en apesanteur. On le voit flotter dans l'air en train d'essayer de rattraper ses chaussettes. Donc le type lambda qui voit ça est déjà complexé avant d'y aller. Si Étienne Dao, avant de se lancer dans la chanson, n'avait écouté que Pavarotti, il n'aurait rien tenté. Et aujourd'hui, il végéterait à Rennes, entouré de punk à chien, fourrant ses poux dans son kebab pour que ça fasse plus de viande. Parce que l'éjaculation précoce, c'est juste un truc d'être humain en fait. Imparfait, on n'est pas des robots. Vous préférez quoi? Un Rocco Siffredi machinal en érection H24, il a fait les travaux de terrassement de sa villa avec son sexe. Quand il va chez Bricorama, un vendeur le range au rayon des disqueuses. Ou alors, de vrais hommes qui font ce qu'ils peuvent. Le directeur de l'étude de l'IFOP, François Kraus, un nom qui suffit à retenir son désir, dit que les types interrogés considèrent qu'en dessous de 5 minutes de rapport, on est précoce. Alors que pour les sexologues, il s'agit d'une durée normale, comme 3h30 pour un film de Scorsese ou 27 minutes pour comprendre un raisonnement de Marlène Schiappa.
Alors j'ai une question que me donne Daniel Morin.
Oui.
Existe-t-il des parades pour éviter l'éjaculation précoce?
Oui, alors on peut essayer de penser à des trucs tristes hein, durant l'acte, comme le parcours de Benoît Hamon. Avec le risque du coup de penser à Benoît Hamon, ce qui accélère encore l'éjaculation. Parce que Hamon, c'est un breton bien gaulé qui sent le beurre de micelle et la mouette en rut. Alors, on a plus envie de se le taper derrière un menhir que de voter pour lui. Mais sinon, on ne peut pas faire grand chose. Donc il faut retourner la situation et montrer au conjoint que c'est un avantage. Par exemple, c'est comme une surprise. Hein, vous êtes au lit, paf, ça vient, vous dites bon anniversaire. Hein, ça change d'un iPhone. Pensez-y, Nagui, pour notre cadeau de fin d'année. Certes, alors le coup de l'anniversaire, bon, ça ne marche qu'une fois par an, sauf pour Ariel Dombal, hein, qui est né le 27 avril 1953 selon l'état civil et le 2 août 87 selon elle-même. Hein, d'autant que des scientifiques le disent, j'en ai discuté longuement avec Hubert Rips que nous avions hier, il m'a dit, je cite, 60 ans que j'attends un échange un peu hot, je tombe que sur des connards qui me parlent de la planète, putain, ça fait du bien. Alors, d'après la science, les primates, donc nous, hein, sont conçus pour éjaculer très vite à cause des prédateurs. En effet, quand un grand singe mâle fait l'amour à une femelle, il court le risque de voir débouler un tigre ou Muriel Robin qui veut le préserver. Et hein, donc, il faut qu'il aille très vite. Et ça, ce serait resté dans nos gènes. On est conçus pour durer 1 minute 20, comme l'électroménager made in China ou le buffet campagnard si des sénateurs s'en approchent. Mais comme l'homme tient absolument à se distinguer du singe, il s'est inventé tout un truc, le Kama Sutra, l'émission Love in Fun, les livres du Marquis de Sade où des mecs sapés comme Cédric Villani se jettent de l'huile bouillante en hurlant « Ah oui, traite-moi comme un croustillon !» Alors que génétiquement, 50 secondes maxi, c'est bon. Chirac, qui désormais vit là-haut avec Johnny Hallyday et l'ancien visage des Bogdanov, on le surnommait 5 minutes, douche comprise. Bah tant mieux, ça lui laissait du temps pour diriger le pays. Pensez-vous que Macron passe son temps à faire l'amour? Non. Quand Brigitte hausse ce petit décolleté et lui dit « Arrête tes carabistouilles, m'amour. De toute façon, j'ai reçu les chiffres de la croissance, ça m'a refroidi, je préférais me la raboter au papier de verre. » Et du coup, toute son énergie intime passe dans l'action. Si les gilets jaunes reviennent, il va les assommer un à un avec son membre. Bref, fini les moqueries. Nagui, Daniel, Albert, Alexis, Fred, vous, monsieur Tonquédec, et moi-même, osons le crier à la face du monde, ce n'est pas de notre faute, la nature nous a créés ainsi. On tient 30 secondes, et c'est aussi pour ça que chaque jour, on a le temps de faire une émission d'une heure et demie. Alors, vive la nature!
Merci, Tonquédec.
Et c'est aussi pour ça que Tanguy sera à temps d'aller en tournée. Voilà. Donc le 15 novembre, on te retrouve à Charnay-les-Mâcons, c'est à côté de Mâcon.
Voilà, le 15 novembre, mais si je viens un peu avant, ce sera le 14.
Voici...
Qui ça ?
Des questions qui concernent l'actualité culturelle. Alice Dufour, Guillaume de Tonquédec, vous pouvez chercher vous aussi avec tout le monde autour de la table. Matt Damon vient de faire une révélation surprenante.
Il a refusé Avatar.
Exactement.
Il ne faut pas avoir cycliste à ce jeu.
Et il a regretté parce qu'en fait, il avait un intéressement sur les recettes et il aurait pu devenir extrêmement riche, mais il ne se sentait pas de le faire. Il y avait un emploi du temps trop chargé, donc c'est pour ça qu'il n'a pas fait.
Kev Adams a refusé aussi.
Exactement. Il aurait pu avoir 10% des recettes, sachant que le film a rapporté 2,8 milliards.
Oui. Et James Cameron lui a dit, de toute façon, si tu le fais pas, je pourrais prendre n'importe qui. Donc c'est gentil pour Sam Worthington, qui lui n'a pas eu ce salaire-là.
Il a pas eu ce deal.
Non.
Et où sont passés les 10% alors?
James Cameron. Il les a gardés. le producteur.
Bah pour faire de l'épisode 2, 3. Ouais. Donc voilà, ça a été réinvesti.
Est-ce que dans vos carrières, Alice Dufour, Guillaume Tonquédec, vous avez refusé des
Avatar.
Rôles? Non, des rôles. Est-ce qu'on vous a proposé quelque chose, vous avez refusé, et puis après coup, vous avez dit, ah, j'aurais peut-être dû accepter? Alice,
ça m'est arrivé de refuser, mais
sans regret. Et ouais. Quel était le moteur du refus? C'est parce que le rôle n'était pas intéressant ou les gens qui étaient autour du projet?
Alors, ça est arrivé que ce soit les gens avec qui je n'avais pas vraiment envie de travailler, ou sinon c'était ce qu'on proposait, soit.
D'accord.
Voilà, artistiquement.
Guillaume,
moi j'ai déjà refusé des projets, mais je pense qu'il faut pas regretter. Quand on dit non à ce moment-là, c'est que ça devait pas se faire. Je crois vraiment au destin, quoi. Donc, justement, pour reparler de la pièce, la pièce, on a essayé. Il paraît, j'ai des copains metteurs en scène qui m'ont dit, on a essayé de la monter plusieurs fois, mais on n'avait pas trouvé la fille. Donc, on a attendu que Alice Dufour naisse, qu'elle sache parler, marcher, danser, qu'elle devienne sublime comme elle est, pour monter la pièce. Mais c'est vrai, sans blague, c'est très très difficile de distribuer ce personnage-là, quoi. Parce qu'il faut que la fille soit sublime. Bon, ça c'est fait. Mais en plus, il faut qu'elle soit jouée,
et qu'elle
joue bien, et qu'elle soit charmante sans faire du charme. Sinon, ça n'est pas intéressant. Si c'est une allumeuse entre guillemets, c'est pas intéressant. De même que si lui est un coureur, c'est pas intéressant du tout. C'est plus intéressant. Et donc, c'était très difficile à distribuer. Donc, voilà, venez voir Alice, rien que pour cette raison-là, quoi.
Mais si je peux me permettre, il est même pas gentil, Guillaume Tonquédec. Il dit juste
non,
la vérité.
Je suis réaliste.
Non, c'est pas. On pourrait prendre ça comme une espèce de flatterie de bons camarades au théâtre, mais c'est la vérité.
Non, c'est la vérité, oui.
Ce serait compliqué de trouver quelqu'un d'autre pour le rôle, je crois.
Ouais, clairement. Oui, clairement. Pendant que vous étiez en train de le dire, je réfléchissais, je me dis, mais quelle comédienne pourrait faire?
Stéphane, elle a cherché, on y a beaucoup réfléchi, et elle a cette chance, peut-être comme moi, de pouvoir faire époque, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle est éminemment moderne, et en même temps, on peut croire qu'elle a vécu dans les années 50, Alice.
C'est vrai que ça marche pour vous aussi, parce qu'à la fin de la pièce, il y a un plan sur vous, enfin, vidéo, à bord d'un train, et il m'a fallu quelques secondes pour réaliser que c'était bien vous, en fait. Et je me suis dit, il a vraiment une tête d'époque, quoi.
Oui, c'est un truc assez... Filmé en noir et blanc.
Ouais, j'ai pas bu qu'un verre après, avant.
Qui est le héros aux États-Unis de Danse avec les Stars en ce moment?
Oh putain, mais vraiment, vous êtes sûr ces questions-là, vraiment? Vous voulez pas des trucs un peu plus...
C'est de la culture, hein.
Franchement...
C'est un homme politique.
C'est un homme politique.
Ah, un homme politique.
Aux États-Unis.
Une femme,
L'ancien porte-parole de la Maison Blanche.
Exactement. Exactement. L'ancien porte-parole de la Maison Blanche qui se retrouve dans Danse avec les Stars aux États-Unis.
Ah oui, vraiment. Et il est candidat?
Il est, je sais pas ce qu'il est, mais enfin, il est au bout du rouleau aussi. Il a accepté de faire ça.
C'est bien. Ah, non, il est vraiment des stars alors dans l'émission.
Est-ce que, pardon?
Eux ont vraiment des stars dans l'émission alors.
Oui, c'est ça.
Non, parce qu'en France, c'est quand même. Non.
On vous a déjà proposé ce genre d'émission.
Porte-parole à la Maison Blanche.
Non, mais à mi-chemin entre le spectacle et la peoplerie. Danse avec les Stars, j'imagine.
Ah bah non, moi non, parce que je suis pas populaire. On a proposé.
Dès l'année prochaine, tu verras.
Vincent Tellier, mon compagnon.
On me l'a proposé aussi, oui.
Mais moi non.
Mais heureusement, je danse mal. Donc j'ai décliné.
On vous l'a proposé?
Oui, on me l'a proposé. Ouais. Mais qu'est-ce que j'irais faire là-bas? Non, je sais pas danser et tout, j'aurais l'air ridicule. Non, pour faire ça, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut accepter? Je sais pas. C'est
Alice,
compliqué.
Vous le feriez, vous, si on vous le proposait?
Je sais pas. Je sais pas.
Ça veut dire oui.
Ouais.
Oui.
Aujourd'hui, franchement, je sais pas.
87 mètres, 16 semaines de travail pour 30 brodeuses, je parle de quoi?
Une robe?
Ah bah pourquoi je fais ça? C'était une bonne question. 87 mètres, non, 87 mètres, 16 semaines de travail, 30
de mariée,
brodeuse, non.
Une tapisserie?
Un truc pour recouvrir un bâtiment?
Une tapisserie, oui, Tanguy, mais laquelle?
Un énorme
Bayeux.
Napperon.
Bayeux, oui, mais ça représente quoi?
La bataille d'Hastings.
Non.
Ça a été fait récemment?
Ouais. Ah oui.
Ah donc c'est une réplique de la tapisserie de Bayeux, c'est ça, pour un film? Non.
C'est
pour une cause.
Elle est présentée au musée de Bayeux jusqu'au 31 décembre.
Ah oui, c'est pas Game of Thrones, non?
Pardon?
Game of Thrones?
Oui, tant qu'il peut. Oh, Exactement.
Ouais. Ils ont fait étonné, effectivement
Fred Seguin, une... que t'es pas.
Oui, mais il est à la ramasse, Fred Seguin, sur tous les trucs de pop culture, faut s'adresser à moi.
C'est Tanguy
qui me souffle tout. Ils ont gardé le gobelet Starbucks dans la.
C'est un truc de dingue. Bon bref, ouais. Voilà, c'était les quelques nouvelles d'actualité que nous avions voulu prendre. Est-ce que dans vos projets, je commençais par vous, Alice Dufour, je parlais de la tournée du Canard l'Orange avec justement votre cher et tendre François Vincent Elie que l'on embrasse au passage, qui est présent d'ailleurs.
Qui est présent dans la pièce. Il a prêté sa voix pour le spectacle, donc il nous rassure tous les soirs, surtout moi parce que c'est moi qui commence. Donc
il l'a pas. Non, il l'a pas prêté. Il m'a bien dit qu'il avait donné bénévolement cette voix. Qu'avez-vous comme projet ou comme envie? À part le Canard à l'Orange, ça commence en janvier jusqu'en
avril. Jusqu'au mois de mai, ouais. Non, j'ai ça. Et j'ai des choses qu'on me propose, mais rien de concret. Je suis dans le film de Katia Leikovitch qui s'appelle Forte, avec Melra Bedia et Valérie Lemercier. Je ne sais pas quand ça va sortir.
D'accord.
J'ai un petit rôle.
Et à propos de cinéma, c'est Place des Victoires, le prochain film dans lequel on pourra vous voir, qui sortira là dans un mois.
Qui sort le 6 novembre, ouais, qui raconte l'histoire d'un homme.
Une comédie dramatique.
Qui est en train de tout perdre, de chuter vraiment suite à un divorce. Et il va être sauvé par un petit garçon qu'il va rencontrer tout à fait par hasard dans la rue. Et ce petit garçon ne va pas très bien lui-même. Par contre, il a une lumière en lui qui va permettre à cet homme de remonter la pente. Comme ça, c'est un très très joli premier film de Johan Guillouzoui, quoi, qui parle du déclassement, et le petit garçon est absolument merveilleux.
Mais c'est vrai que ce sont les ruptures qui vont vous aider à faire carrière, hein, parce que là,
on va l'aider aussi, on va lui permettre de remonter un tout petit peu la pente. Voici Frédéric Segrist.
Alors l'événement cinématographique de la semaine, c'est bien évidemment la sortie du documentaire « Pour Sama » de Wahad Al-Kateab sur la vie d'une jeune Syrienne sous les bombardements d'Alep. Non, je déconne. J'ai une gueule à aller voir pour Sama. Non, mais je suis sûr que c'est un très bon documentaire, mais simplement que ça serait pas lui rendre service que de m'avoir dans la salle. Le réalisateur, il rêve d'avoir Leïla dans la salle. Si on lui dit à Frédéric Segrist dans la salle, il va dire, oh non, inventer un problème technique. Moi, ce qui m'intéresse dans les documentaires sur la guerre, je vous le cache pas, c'est la guerre. C'est vrai. Quand je vois un réfugié en gros plan qui me raconte, oui, j'étais sous les bombardements, j'ai vu des milices armées entrer dans mon village, j'ai envie de lui dire, écoutez, c'est terrible, c'est intéressant, mais me racontez pas, montrez-moi. Sinon, ça fait genre, on n'avait pas le budget. Mais moi j'ai horreur de ça, à l'ère de Michael Bay tu racontes plus les trucs comme ça, je suis de la génération PlayStation 4, j'ai une attention de poisson rouge hyperactif. Moi des fois je vois des vidéos YouTube de 2 minutes, je suis là, je dis c'est long là, c'est long. Il y avait pas longtemps, j'ai vu la Traviata à l'opéra, il y a le personnage de Violetta, bon spoiler, elle meurt à la fin. Et ben avant de mourir, elle chante pendant 45 minutes. Je vous jure, moi j'étais à deux doigts de monter sur scène pour abréger ses souffrances. Je suis désolé madame, moi j'étais compatissant il y a 25 minutes, maintenant il faut laisser les gens tranquilles, il faut mourir. Hein. Non, l'événement cinématographique de la semaine, c'est bien évidemment le Joker. Voilà. Vous voyez qui est le Joker ? C'est l'ennemi de Batman. C'est un clown qui tue des gens sans avoir à vendre des hamburgers. Et le film est précédé d'une réputation élogieuse. Ouais. Ah, il a eu le Lion d'Or à Venise. Genre, je sais pas ce que c'était qu'un Lion d'Or, hein, mais il paraît que pour un réalisateur, c'est vachement bien. Oui, parce qu'un lion, il faut des animaux. Un lion à Venise, un ours à Berlin, un lamantin à Saint-Pétersbourg. Il faut un animal. Moi, je comprends, ma fille, c'est les petits poneys. Hein. Et les critiques ont salué l'interprétation de Joaquin Phoenix. Alors, Joaquin Phoenix, c'est l'acteur total. Il perd 15 kilos pour un rôle, il en prend 15 kilos pour un autre. C'est comme notre Depardieu à nous, il prend 15 kilos pour un rôle et puis encore 15 kilos pour un autre. La balance de Depardieu, elle lui donne plus son poids, elle lui donne sa filmographie. Et vous avez 25 films de trop. Et Joaquin Phoenix, tu l'embauches pour un film de Noël, il se met dans la peau du sapin. Ah, il passe tout le repas du réveillon à poil, avec des guirlandes sur la teub et des boules d'oreilles. Et en février, tu le retrouves sur le trottoir dans un sac à sapin, tellement il pousse le loin sa démarche. Bref, niveau promotion, tout se passait nickel. Joaquin avait déjà fait de la place sur sa cheminée pour foutre son Oscar et son lamantin. Quand soudain, la question polémique, est-ce que ce film ne risque pas de donner des mauvaises idées à des déséquilibrés, particulièrement des incels? Alors les incels, je rappelle, c'est qu'un incel, c'est un célibataire involontaire. De mon temps, on appelait ça des moches qui puent. Les incels sont convaincus, c'est des jeunes qui sont convaincus que les femmes se refusent à eux par arrogance. Bon, j'ai vu des photos de certains d'entre eux. Quant à la tête d'Éric Zemmour, l'hygiène de Michel Houellebecq et le physique de Gérard Larcher, les femmes se refusent pas à toi par arrogance, mais par autodéfense. Et donc, il faut dire qu'à la sortie de Batman 3 de Christopher Nolan, The Dark Knight Rises, James Holmes, un jeune de 24 ans, a tué 12 personnes et fait 58 blessés dans une salle de cinéma à Aurora. Et le plus glaçant dans cette histoire, c'est qu'il a commencé à tirer sur les gens avant la scène de Marion Cotillard. Il n'y avait même pas d'alibi. Et donc, en fait, les médias ont dit qu'il était inspiré du Joker parce qu'il s'était teint les cheveux en rouge. What the fuck?
Le Joker a les cheveux verts. Verts. C'est quoi, je veux dire, c'est quoi ce soi-disant fan? How dare you, comme dirait Greta. Je veux dire, c'est comme si tu te revendiquais de Greta Thunberg justement pour plastiquer un abattoir et au lieu d'avoir des couettes, t'aurais une coupe afro. Je veux dire, soyons sérieux. Si tu veux t'inspirer du Joker pour un attentat, tu prends pas des flingues, tu fais sortir des hyènes d'un gâteau géant, tu fais exploser des nains remplis de gaz hilarant, mais tu fais pas ça comme le premier djihadiste de merde avec des couteaux et une kalachnikov. En plus, je suis désolé, mais fasciné par les armes, des cheveux rouges, ça sent plus Trump.
C'est vrai.
C'est plus Trump, l'aspiration. C'est vrai. Donc vraiment, arrêtons de dire, voilà. Non, pour en revenir au film, au Joker, vraiment, je le conseille d'aller le voir parce que c'est un grand film politique. C'est un film politique qui va vous expliquer pourquoi on vit dans une société qui a tant de mal à créer des Batman ou des Superman, mais tellement de facilité à créer des Jokers.
Merci.
Et on retrouve Fred Sigrist le 17 octobre à Port-Jérôme sur Seine. Et à partir du 24 octobre, tu seras à la basse-cour. C'est à Grenoble.
Ah, enfin. Au théâtre, au Bouffe Parisien, Alice Dufour, Guillaume de Tonquédec, Agathe Drone, Jacques Fontanelle, François Burlou, Clément Coche. Et qu'est-ce que Leïla, on pourrait dire pour finir sur cette pièce? Sept ans de réflexion avec nos invités.
Discussion à l'issue, moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu. C'est ça, c'est la thématique de l'infidélité et de l'adultère, en tout cas, elle est inépuisable. Et je trouve que c'est un film hyper moderne, parce que montrer cette jeune femme qui veut juste une relation d'un soir
une
et
pièce,
l'assumer, ouais, une pièce, et l'assumer complètement. C'est, je me dis, voilà, c'est ancien dans l'époque, mais c'est contemporain dans la pensée.
Daniel Morin.
Moi, je trouve qu'une fois de plus, et je m'en réjouis, l'adultère n'est plus considéré comme un péché. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde et qu'on est pardonné si jamais on prend le train à la fin.
Albert.
Eh ben moi, je vais être franc, j'ai pas vu la pièce, mais j'ai très envie d'aller la voir et je vais aller la voir.
Tanguy Vassureau.
Moi, je trouve que l'émission sert trop souvent de prétexte à Daniel Morin pour parler de lui. C'est vraiment un problème, quoi.
Frédéric Sigrist.
Que si jamais vous voulez devenir un vrai badass comme il faut, un mec vraiment sombre, la bague à tête de mort, pas bonne idée.
Alice Dufour, qu'aimeriez-vous entendre en sortant du théâtre, qu'un spectateur vous dise
que c'était élégant. J'aime bien quand on dit que c'est élégant et que
c'est le cas en tout cas. Ouais,
voilà,
on peut le dire. Guillaume de Tonquédec.
Ouais, élégant et charmant, mais charmant, c'est un mot qui peut paraître un peu désuet, un peu, mais le charme fort. C'est un mot très puissant, quoi. Donc c'est ce qu'a voulu Stéphane Hillen et j'espère que c'est ce qu'on a réussi à faire, c'est ce qu'on réussit à faire,
oui,
tous les soirs.
Ah oui, la forme est très très belle, elle est charmante, mais le fond donne à réfléchir aussi. Et le mot,
moi, c'est les comédies que j'aime, c'est quand il y a du fond et qu'on rigole quand même beaucoup parce que ça permet des discussions après, voilà, avec Leïla.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, déjà désolé, mais vraiment désolé pour Nagui qui aime l'originalité et qui aime se distinguer par sa taille, ses chaussures, sa richesse, sa méchanceté, et qui, à cause de Tanguy Pasturois, a découvert aujourd'hui qu'il avait la même vie que 71% des hommes. T'inquiète, mon Nagui, oublie l'éjaculation, garde le côté précoce, positive, mon lapin, positive. Désolé pour les filles de Nagui, oui, toutes les 18 filles de Nagui qui ont encore eu la confirmation du côté rétrograde de leur papa tyrannique. Pas de Crazy Horse, pas d'amis, pas de livres, pas d'eau, pas d'électricité. C'est vrai que c'est dur. On va peut-être faire un signalement à la DAS, Nagui, on verra. Et désolé enfin pour nos fidèles auditeurs qui ont été troublés, choqués, voire violentés par Guillaume de Tonquédec qui, s'adressant à Nagui, a déclaré « C'est une super question. Oh, » bordel, en plus, il a réussi à nous raconter une anecdote sans nous épuiser, le Nagui. Une anecdote qui était presque intéressante. C'est clair, aujourd'hui, il est drogué.
On est vendredi, surtout faut que je me repose. Ouais. Merci Alice Dufour. Merci Guillaume de Tonquédec. 7 ans de réflexion au Bouffe Parisien. Lundi, Vincent Delerme sera notre invité. Tout de suite, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bon week-end.
Salut. À lundi.